Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. En compagnie de Jean-Michel Payot, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler avec vous de l'assise immobile et silencieuse que je ne connais pas du tout et peut-être un certain nombre d'auditeurs et auditrices également. Alors, on peut commencer peut-être par vous. Qui êtes-vous ?
C'est très simple. Moi, je suis à la retraite là, depuis deux ans. Jusqu'à présent, j'étais agriculteur du côté de Oust-sur-Scie. J'avais une ferme, donc j'ai toujours d'ailleurs. Je fais un peu d'accueil touristique et dans des gîtes. Voilà. Et ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse à la spiritualité, que j'ai un chemin moi-même spirituel au sein d'une école de la vie intérieure qui s'appelle Arthas. Je suis depuis quelques années enseignant dans cette école et j'enseigne les fondements de la psychanalyse corporelle dont l'assise immobile fait partie.
Arthas, présentez-nous un peu ce...
Arthas est une école de la vie intérieure, c'est-à-dire une école qui apprend chacun à se connaître un peu mieux. C'est une forme de développement personnel.
Il y a un aspect méditatif, on va chercher ça.
Dans méditation, on y met beaucoup de choses, donc c'est complexe de définir ça comme étant de la méditation uniquement. Non, c'est une voie de développement intérieur à caractère spirituel, c'est-à-dire qu'on y met l'entité du corps, quoi, le corps et l'esprit, tout y est.
Ça s'appuie sur une thèse, quelque chose d'écrit
C'est Bernard Monteau qui a fondé cette école dans les années 80. Bernard Monteau était élève et toujours élève de Gita Malas, qui est décédé depuis 20 ans déjà, mais il est resté élève quand même. Voilà, donc il a développé cette école Arthas pour développer ce mouvement de l'introspection en soi, se connaître dedans, quoi.
Vous disiez qu'il était élève de...
Gita Malas.
Et qui est cette personne ?
Gita Malas, c'est la scribe des dialogues avec l'ange. Peut-être que vous avez entendu parler de ce fameux livre, Les dialogues avec l'ange, qui a été édité dans au moins 20-25 langues, dans 25 pays différents. Voilà, donc ça a été son élève, son principal élève. Il n'y en a pas eu d'autres d'ailleurs, je crois.
Alors comment, à travers votre parcours, vous arrivez vers cette école ?
Eh ben, c'est toujours. On dit qu'il n'y a jamais de hasard, et c'est vrai. Quand on est en recherche d'une meilleure connaissance de soi, quand on a plein de problèmes dans la vie, et moi j'en avais à une époque, on se dit mais bon, ça y est, ça recommence le bordel. Comment je peux m'en sortir, quoi ? Et donc, le hasard fait toujours bien les choses. La vie vous présente des solutions qu'il faut saisir à un moment donné, quoi. Et un jour, j'ai rencontré dans une conférence Bernard Monteau qui parlait de la voie qu'il avait développée, Arthas, et du chemin qu'on y faisait dans cette voie, qui était un chemin pour se découvrir, pour se connaître, apprendre à voir ses défaillances, à les aimer et puis avoir des actes justes derrière pour une vie meilleure, quoi.
C'est plutôt dans les phases dépressives qu'on pourrait avoir envie d'aller vers ces voies-là, ou le deuil, ou des choses... Qu'est-ce que vous diriez ?
C'est pas spécifique à ça du tout, non. Cette voie, comme toutes les voies spirituelles, elles apprennent à l'homme à être meilleur, être au meilleur de l'homme. On voit bien aujourd'hui qu'on est tout le temps gouverné par des comportements qui sont compulsifs, des gouvernements qui sont conformistes, etc. Et qu'au fond de nous-mêmes, il y a une autre vérité qui est à découvrir. C'est ce chemin-là qui est à faire dans une voie spirituelle. La nôtre s'appelle Arthas, mais il y en a d'autres.
Et ce n'est pas encore plus dur, justement, d'affronter tout ce que vous venez de dire avant, quand on a soi-même développé peut-être quelque chose d'un peu différent et on est quand même confronté à cette société qui est consumériste. Enfin,
on l'est toujours confronté, mais grâce peut-être à cette découverte de soi et à la manière dont on fonctionne, pas toujours très chouette, eh ben, on peut réajuster le tir, si je puis dire, pour avoir des actes beaucoup plus justes dans la vie, qui ne vont pas blesser la personne soi-même, ni les autres, et ni le monde, ni dans une démarche comme ça, spirituelle, on ne peut pas polluer la terre, par exemple. On a une attitude intérieure qui fait que, se respectant soi-même, on ne peut pas ne pas respecter les autres, ni la terre qui nous porte. C'est impossible dans une vie, dans une voie spirituelle autonome.
Y a-t-il un process pour aller dans cette dimension spirituelle chez Arthas ?
Non, pas du tout. Le seul process qu'il pourrait y avoir, c'est avoir envie d'améliorer sa vie en s'apercevant qu'on est tout le temps dans les mêmes schémas, ben d'avoir envie peut-être de modifier ces schémas et de comprendre en tout cas pourquoi ils existent et comment on pourrait définir une autre démarche dans la vie qui soit plus respectueuse de soi-même.
Donc on n'est pas obligé de lire le livre dont on parlait tout à l'heure.
Absolument pas. Voilà. Non, absolument pas.
Mais par contre, il y a des techniques. L'assise immobile et silencieuse en est une.
Alors, c'est en fait l'assise, c'est puisque dans une voie spirituelle, on engage inévitablement le corps, quoi, entièrement, corps matière et corps esprit. L'assise, ça n'est qu'un miroir pour stimuler l'esprit à comprendre comment il fonctionne intérieurement. Habituellement, on est tout le temps dans une espèce de turpitude, on court tout le temps à droite et à gauche, on parle, on fait du bruit, etc. Et si, à travers ce miroir qui est l'assise immobile et silencieuse, on arrête le corps, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a une vie intérieure qui se manifeste. Et c'est cette vie intérieure que dans cette recherche, on décode. Cette vie intérieure fait partie de chacun de nous, elle est unique pour chacun de nous. Et c'est vers cela qu'on va chercher des solutions pour soi-même.
L'assise par opposition à la position couchée qui fait que finalement on s'endort et qu'on n'entend pas son intérieur non plus. Quand on est assis, en fait, on est obligé de rester éveillé, mais en même temps, on ne peut pas bouger.
Ouais. Dans cette assise qui s'inspire un peu des assises zen, des assises japonaises, quoi, hein,
oui.
On a une position qui place le corps dans un axe qui l'empêche de s'endormir, justement, qui l'empêche de tomber à gauche ou à droite.
Confortable, néanmoins ?
Alors, ça peut être problématique. Hein. Beaucoup de gens se disent « Ah ben non, moi, j'y arriverai jamais. D'abord, rester immobile et silencieux, c'est pas possible pour moi, etc. » Et on s'aperçoit qu'en osant jouer à ce jeu, il faut le prendre comme un jeu, en osant jouer à ça, on arrive très bien à s'asseoir, rester une heure assis, et puis à décoder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors, ça se fait progressivement, hein, c'est évident. Hein.
Oui, la première phase, c'est pas le cerveau qui carbure quand même encore à fond la caisse.
C'est obligatoire, parce qu'on s'aperçoit justement qu'en immobilisant le corps, tout ce qui se passe à l'intérieur, on n'avait pas l'habitude de le voir, puisqu'on était dans des occupations diverses. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on n'a aucun contrôle sur notre vie intérieure. Et c'est justement ça que l'attitude intérieure du silence et de l'immobilité, pour le coup, va nous aider à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe ? Quel est ce mystère ? Pourquoi ça voyage tant dans ma tête, quoi ? Et tout ce qui va se faire et se dire dans la tête est une expression de notre façon de vivre et qui est problématique bien souvent. Et c'est ça, comme c'est ça que l'on cherche à solutionner, eh ben ça tombe bien.
Alors quand on est enseignant comme vous, Jean-Michel Payot, est-ce qu'en fait on supervise aussi un petit peu, on permet aux personnes de décoder ce qui s'est passé à ce moment-là dans leur tête ?
Tout à fait. L'enseignant est là comme poteau indicateur. C'est-à-dire, bon, il a quelques petites longueurs d'avance sur ceux qui viennent jouer à ce jeu-là.
Par exemple, combien d'heures de méditation pour vous, assise ?
Ben, moi, je fais de l'assise tous les jours, ouais. Hein, tous les jours chez moi.
Et depuis 20 ans, c'est ça, vous disiez ?
Oui, ça fait 20 ans.
Ouais. 20 ans. Bon.
Donc voilà, on a bien sûr évidemment 5 minutes d'avance sur les autres et grâce à ces 5 minutes, on peut aider, voir les lacunes à travers lesquelles passent les autres par rapport aux questions qui vont être posées dans le cercle, etc. Et donc on peut donner quelques conseils et aider les gens à mieux se voir. Encore une fois, c'est toujours eux qui font le boulot, c'est jamais l'enseignant. L'enseignant est là uniquement comme poteau indicateur, pas plus.
Et donc là, bah, vous l'avez décrit, du coup, il y a cette phase d'assise et puis un cercle.
Voilà.
Où là, tout le monde
se parle librement.
Voilà,
tout le monde se parle chacun par rapport aux questions qu'il a sur l'expérience qu'il vient de vivre, parce que c'est toujours une expérience quand on se donne les moyens de vivre cette expérience, ça reste une expérience. Et donc, dans cette expérience, on a des questions, il y a des trous, c'est comme un pulse, quoi. On s'aperçoit que, ah oui, mais j'ai vu ça, mais là, je comprends rien, là, je comprends pas ce qui se passe. Là, c'est à ce moment-là qu'il faut poser des questions et que l'enseignant est là pour y répondre.
Avec votre expérience d'enseignant, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent vraiment presque chez tout le monde, qui pourraient être un indicateur des maladies de nos sociétés ?
Non, je pense que comme chacun est unique, chacun a décodé ses propres petites misères intérieures à travers sa manière à lui, à elle, à cette personne, d'être conditionné dans sa vie, dans son histoire, dans sa famille, etc. quoi.
On a des conditionnements communs, mais pas des misères communes, c'est ça que...
Les conditionnements communs, ils sont peut-être liés, je sais pas, à la religion ou, ou au fait de société dans laquelle on vit, mais dans une voie spirituelle, qu'on soit religieux ou athée, ça n'a aucune importance, quoi. Ce qu'on cherche à solutionner, c'est notre fonctionnement intérieur. Et ça, il est propre à chacun et unique à chacun.
Par opposition à la religion, la recherche spirituelle s'affranchit de codes, de dogmes, de foi codée.
Complètement. La recherche spirituelle, ça n'a rien à voir avec la religion, quelle qu'elle soit, ou quelque dogme que ce soit dans une religion. Il s'agit de foi. Est-ce qu'on croit en soi d'abord, après qu'on soit musulman, bouddhiste, chrétien ou autre, ça n'a aucune importance. Est-ce qu'on a la foi ? Si on a la foi, on peut oser chercher ce qui se passe en soi-même. Et ça, c'est déjà de la foi. C'est à un moment donné, c'est à travers le décodage de son fonctionnement intérieur, c'est comprendre que chacun fonctionne d'une certaine manière. J'y crois ou j'y crois pas. Je viens de le vérifier dans une expérience. Est-ce que j'y crois ? C'est le début de la foi, ça.
Alors, une fois qu'on s'est assis un certain nombre de fois, on finit par calmer le rythme de cet esprit, ordonner un peu plus la pensée. Vers quoi on va ?
Alors, chaque expérience est toujours unique, mais elle fait partie de la personnalité de chacun et de la globalité de la personnalité de chacun. Et donc, chaque fois, ce que l'on gagne, c'est à reconquérir. C'est un chemin de reconquête perpétuel. On ne peut pas dire « Ah ça c'est réglé, je reviens plus, c'est fini ». Non. Si on a une petite misère et qu'on se met en colère, par exemple, tout le temps, pour des raisons, pour une raison ou pour une autre, contre quelqu'un ou contre quelque chose, ça dénote d'un processus intérieur qui est peut-être vu, mais qui va être à reconquérir à un moment donné quand ça va revenir. Parce que le conditionnement lié au passé par rapport à une histoire passée va nous faire remonter des choses dans le présent qui vont nous faire avoir une attitude comme on l'avait jusqu'à présent. Mais c'est le fait d'avoir vécu des expériences, d'avoir compris pourquoi, etc., que ça va tout de suite nous permettre de ne pas se mettre en colère, mais d'avoir une attitude différente et plus juste. C'est ce qu'on appelle le meilleur de l'homme, quoi, reconquis. Mais c'est à reconquérir tout le temps. Sauf que ça se fait d'une façon automatique, à force de le faire plusieurs fois, quoi.
J'allais dire, on ne guérit pas, on ne peut que se prévenir sans cesse d'attitude ancrée.
On ne peut pas changer. On ne se change pas, mais on se transforme. Et la transformation, elle se fait très facilement, avec de la pratique, quoi. De la même manière qu'un musicien fait des gammes tous les jours pour devenir virtuose, et que ça lui vient au bout des doigts à chaque fois qu'il joue, pour un chemin spirituel, c'est pareil.
Concernant les très grandes maladies, est-ce que ce chemin spirituel aide ? Vous avez peut-être des exemples de personnes qui vraiment ont aussi réussi à, j'allais dire, remotiver leur corps extérieur qui, lui, était mal. Je pense à des cancers, les personnes qui ont des handicaps un peu lourds.
Alors, c'est pas une thérapie, c'est pas thérapeutique, c'est ce chemin-là. Par contre, ça paraît évident que chaque fois que l'on travaille un peu pour soi et que l'on va mieux à l'intérieur, c'est tout l'ensemble du corps qui va mieux. Et donc, dans le cas des grandes maladies, c'est évident que les médicaments pour le corps, pour la matière, sont nécessaires et obligatoires, probablement. Mais que le travail intérieur, il appartient à celui qui est malade, quoi. Et c'est vrai que quand on est malade, si on a une vie intérieure qui est forte, une vie intérieure tournée sur soi, tournée comprendre tout ce qui nous arrive et s'apaiser par rapport à ça, ben c'est sûr qu'on va quand même mieux, quoi. Mais ça n'enlève pas la maladie, hein, mais ça va peut-être en réduire les effets négatifs, quoi.
Ou augmenter la combativité.
Aussi, oui, ça ajoute du positif, quoi.
Vous êtes enseignant, on entend là, enfin en tout cas je vais parler pour moi, mais que ça devrait être presque quelque chose d'enseigné partout, cette recherche spirituelle, ce bien-être intérieur. Comment est-ce qu'on le véhicule ? Vous allez là, vous vous rendez notamment pour faire deux ateliers par chez nous à Habiter. Il faut se déplacer, il faut initier, j'allais dire, un maximum de gens.
Ben oui, ça
c'est pas encore être... enseigné à l'école. Hein.
Non, c'est dommage, ça devrait être reconnu d'utilité publique. Bah déjà, quand un être humain va mieux, il est moins malade. Hein. On parlait de maladie tout à l'heure, bah c'est évident. Hein. Quand un être humain va mieux intérieurement, il est moins sujet à la dépression, à des angoisses, etc., qui entraînent des pathologies souvent graves derrière. Donc oui, tout ce qui est du domaine de la foi et de la spiritualité, ça... J'insiste, ça devrait être reconnu comme utilité publique, ce qui n'est pas le cas, hein, loin de là. Mais... Et donc, c'est évident que tout chemin spirituel, comme ce n'est pas du domaine de l'habituel, ben, ça reste quand même assez marginal. Mais on sait très, enfin, on voit bien, il y a un grand homme politique, Malraux, je crois, qui disait que le 21e siècle serait spirituel ou ne serait pas, mais on sent bien quand même qu'il y a une tendance avec... avec une émergence de la foi, quoi, qui se fait malgré nous.
Mais effectivement, il ne l'a pas vraiment été, quand même.
Il l'est un peu. On ne peut pas dire qu'il ne l'est pas. Il l'est, mais il y a une force tellement grande du côté de la politique, du côté d'une vie conformiste qu'il ne faudrait pas changer. Est-ce qu'on est des consommateurs ou est-ce qu'on est des créateurs de nos vies ? C'est ça le vrai problème. Et je pense qu'un chemin spirituel nous amène à ça. Et on se rend bien compte que la vie telle qu'on nous la propose, telle qu'on nous la dicte, elle est aux opposés de ça. Donc, celui qui a une vie spirituelle, c'est un petit peu quelqu'un qui est en révolte, qui est en vis-à-vis de ça, quoi.
Bah, puisque vous parlez de politique un petit peu, non pas pour vous faire rebondir sur l'actualité du tout, mais en même temps, est-ce qu'on peut penser qu'un jour, il y aura une orientation politique qui irait dans ce sens-là ?
Mais je crois que l'avenir de l'homme, ça, c'est obligatoire que ça passe par ça. Aujourd'hui, on voit bien que nos sociétés sont malades, pathologiques, que les systèmes qu'elles créent sont déjà des échecs pour l'homme, quoi. Je parle des échecs pour l'homme, pour l'avenir de l'homme. On voudrait que nous ne soyons que des consommateurs, mais l'avenir de l'homme, si un nouvel homme doit émerger de ça... Ça ne peut pas être un consommateur, ça va être un créateur de sa vie, dans un nouveau plan de conscience qui n'est pas celui qu'il vit actuellement. Et on voit bien qu'il y a en face de nous une tendance qui nous ramène plus bas, quoi, qui cherche à nous ramener plus bas. D'où toutes ces polémiques qu'il y a quelquefois par rapport aux sectes, quoi. Dès que quelqu'un ou quelque chose cherche à améliorer la vie intérieure, hop, tout de suite c'est repris par les grandes instances comme étant des sectes ou autre chose. Alors que ce n'est pas le cas du tout.
Vous avez eu ce problème ?
Toutes les voies spirituelles sont passées par ça. Je crois, j'en connais pas qui ne soient pas passées par ça à un moment donné, quoi. C'est évident.
Donc, comment ça se passe d'ailleurs ? On est classé secte, on est inspecté.
Après, chez nous, on n'est pas une secte. Hein, ça a été reconnu comme pas une secte. Mais de toute façon, toutes les voies spirituelles, moi, j'estime que toutes les voies spirituelles ont leur mot à dire et qu'elles sont nécessaires. Est-ce qu'il y a dans la vie, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas chez les bouchers un mauvais boucher ? Est-ce qu'il n'y a pas chez les boulangers, un mauvais médecin chez les médecins, etc. Il y a de tout, il y a une pluralité dans cette vie et c'est ce qui nous encourage à discerner. Et cette discernation fait partie de l'émancipation de l'être humain. Donc ça fait partie du grandissement de la vie spirituelle de l'être humain. Donc c'est nécessaire et c'est pas péjoratif, ça n'a rien. C'est du cinéma qu'on nous fait.
Alors deux ateliers à Habiter, on en parlait tout à l'heure, c'est quand ?
Le premier atelier, c'est le 11 février, lundi 11 février, à 19h. Et le second, c'est le mercredi 13 à 19h aussi.
Comment vont se passer ces ateliers ? Vous proposez quoi ?
Alors sur ces ateliers, ben, on va expérimenter l'assise immobile et silencieuse, l'attitude surtout de l'assise immobile et silencieuse, parce que la position en elle-même, chacun s'assiera comme il pourra, parce que bon, c'est ouvert à toute personne, et dans certains de nos groupes, il y a des gens qui sont des fois âgés et qui ne peuvent pas s'asseoir par terre en demi-lotus ou en sésame, mais qui vont s'asseoir sur une chaise. Et l'idéal, c'est bien évidemment de s'asseoir par terre, d'avoir 3 points d'ancrage, mais on peut aussi pratiquer l'assise immobile et silencieuse sur une chaise, s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc voilà, l'expérience, on va la tenter comme ça. Chacun va, pendant quelques temps, quelques minutes, quelques dizaines de minutes, tenter cette expérience au niveau du corps et de l'esprit. Est-ce que son esprit est en accord avec son corps, ou est-ce qu'il y a un combat qui se manifeste à l'intérieur? Et de ça, ben, dans un petit cercle, on va le partager. Et puis, peut-être une deuxième assise derrière, voire une troisième s'il y a besoin, pour continuer et pousser l'expérience plus loin.
Et vous disiez, à terme, on fait des cycles de 1 heure finalement?
Oui, dans nos rencontres hebdomadaires, puisque les assises, quand on fait partie d'un groupe, elles sont toutes les semaines. Là, ce sont des soirées qui durent 2 heures, donc il y a 1 heure d'assises et 1 heure de partage en cercle. Bon, des fois un peu moins, suivant la capacité du groupe, mais voilà, c'est de toute façon 1 heure d'assises.
Pour ces 2 ateliers, il faut s'inscrire?
C'est préférable de s'inscrire parce que ben, ça permet de savoir qui vient et comment on s'organise. Oui, c'est mieux.
Auprès de Habiter, du coup?
Ou non, directement au numéro de téléphone. Hein, c'est 06 49 39 33 24.
On peut vous trouver quelque part sur Internet, Arthas
Alors, Arthas, déjà, arthas.org, hein, c'est le site de l'école. Bah, c'est là où on trouve tout, hein, en fait. On trouve tout ce qui concerne Arthas et la voie spirituelle.
Et on peut avoir comme ça les tournées de ces ateliers. Vous, après Habiter, vous allez ailleurs
Alors moi, j'ai un groupe d'assises à Cray. Ici, bah, on essaye de développer aussi un petit peu le secteur, voir s'il y a un potentiel, s'il y a des gens intéressés. Bah, à partir de 4-5 personnes, on pourra créer ici un groupe également. Voilà, donc bah, c'est vers moi qu'il faut se tourner, c'est éventuellement s'il y a des gens intéressés. Puis on verra aussi ceux qui viennent lors de ces 2 soirées, ils se manifesteront dans ce sens-là peut-être.
Jean-Michel Payot, merci.
Merci à vous.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.